3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.
Wouh!
Bonjour Michel.
Salut Jean-Marie.
Bonjour Paul, qui remplace Will aujourd'hui derrière la vitre. Alors, dessine-moi un bateau. On va essayer de nous dessiner un bateau radiophonique, encore une fois. Et aujourd'hui, Michel, on va parler
de Howard Blackburn.
Un homme doué d'une force et d'une
volonté de faire, on va dire.
Howard Blackburn, est, que certains ont appelé aussi le mutilé de l'océan. Et on va comprendre pourquoi. Alors, on attaque. Howard Blackburn, lui, il est né en 1859. Donc ça fait quand même quelque temps, en Nouvelle-Écosse, donc au Canada. C'est un pays essentiellement de marins, un pays froid, comme on l'imagine, donc un pays dur. À cette époque, la marine, c'est la voile, et la voile, c'est autrement plus dur que la marine à moteur, bien entendu. Ce pays, en tout cas sur le littoral, c'est surtout la pêche, bien sûr, surtout à cette époque. Et on y pêche, bien sûr, un peu de tout, mais ce qui fait la fortune de cette région, ce sont les bancs qui sont au large de Terre-Neuve, donc pas très loin de la Nouvelle-Écosse, les bancs de morue, dites aussi flétans, et qui, pour des raisons que seule la nature connaît, sans doute les eaux très froides de l'hiver et d'autres paramètres, peut-être encore inconnus d'ailleurs, et bien donc ces poissons font que pour remplir les cales de morue, il faut pêcher dans ces eaux pendant l'hiver.
Ouais. Et on sait que les pêcheurs bretons, d'ailleurs, allaient et vont encore sur ces bancs.
C'est vrai.
Sans doute, Paimpol et sa Paimpolaise sont les deux noms qui illustrent le plus cet aspect de la pêche lointaine.
Il y a la fameuse chanson sur la Paimpolaise. Hein.
Voilà. Et puis, vous avez sans doute aussi parlé du fameux roman « Pêcheur d'Islande » de Pierre Loti. Hein. Mm-hmm. Un pseudonyme qu'il s'appelait Louis-Marie Julien Viaud, de son vrai nom.
Pierre Loti, oui.
Ce roman, d'ailleurs, a été écrit en 1886, et c'est précisément dans ces années-là que va se situer le drame qu'a dû affronter Howard Blackburn. Affronter et surmonter, puisque ce diable de bonhomme était une force de la nature, une force physique autant qu'une force psychologique, il faut le dire. Et qu'il a surmonté une épreuve devant laquelle nos super-héros de pacotille actuels se feraient pipi dessus, on peut dire.
Je crois bien, je crois bien. Bon, on va, tout le monde appréciera. Alors, sur son aventure, un premier livre a été écrit par Joseph L. Garland, L'homme voyageur, The Extraordinary Adventure of Howard Blackburn, Hero Fisherman of Gloucester. Autrement dit, le voyageur solitaire, l'extraordinaire aventure de Howard Blackburn, le pêcheur héros de Gloucester. Le second livre, puisque évidemment, il est né à Gloucester. Le second livre, et il habitait là-bas, le second livre de cet homme porte le titre de Le mutilé de l'océan, que nous avons d'ailleurs un peu utilisé pour titrer cette émission. C'est lui qui lui a sorti ce surnom. Il a été écrit bien plus tard par Jean Mérien, donc Le mutilé de l'océan, ensuite le second livre, édité en 1958, et il a été réédité en 2001 aux éditions de l'Encre Marine, une édition qui est bien connue par toutes les personnes qui s'intéressent à la mer, à la navigation. Jean Mérien, lui, c'était un auteur d'origine suisse, qui fait pourtant référence dans le monde de l'aventure sur mer, et il a pris ce nom de Mérien, qui est un pseudo, par opposition à, tout simplement, Terrien.
Ok, bon, ben voilà le décor planté. Alors, Blackburn, comme je l'ai dit, était un costaud de chez costaud. Et à cette époque, et dans ces pays, on sait que c'est l'époque de la ruée vers l'or et la si fameuse conquête de l'Ouest.
Ouais.
Des Indiens qu'on repousse de plus en plus loin.
Ouais.
C'était l'époque de la Wells Fargo, des cow-boys.
Diligence de Wells Fargo.
Du chemin de fer qui commençait et qui, à coup de poussée vers l'ouest, a aidé fortement, et il était aussi aidé largement par l'armée US et qui grignotait petit à petit les territoires indiens pour finalement ne leur laisser que de lamentables parcelles. Les lamentables réserves et de préférence dans des endroits évidemment désertiques et particulièrement désolés.
C'est vrai.
Et même la guerre de sécession n'avait pas encore eu lieu. Bref, on dit que c'était... certains disent que c'était le bon vieux temps.
Oui.
Mais ce n'était pas pour tout le monde le bon vieux temps. Pour certains, oui. D'autres, non.
Ça a toujours été un peu comme ça. Hein. Mais enfin, là, c'était terrible. Eh bien, en Nouvelle-Écosse, si les Indiens avaient été repoussés, et en grande partie décimés d'ailleurs, depuis longtemps, la vie était dure. Elle était très dure. Alors, au XIXe siècle, on commençait à travailler pour les gens dits du peuple. Ils commençaient à travailler, ces gens-là, entre 8 ou 9 ans. Le Canada est possession de la Grande-Bretagne, dont les théories libérales sont bien connues. Et si cette époque était celle du romantisme, entre guillemets, eh bien ce romantisme, ce n'était pas le lot du bon peuple. Plus présent dans les usines et autres manufactures enfumées, malsaines et crasseuses, que dans les tea parties ou les fumoirs des grands hôtels.
Howard Blackburn devient célèbre en 1883, il avait alors 24 ans, quand il fut pris par un coup de vent alors qu'il relevait ses lignes de fond avec un collègue à bord, d'ailleurs de l'un des Doris de la goélette Grace L. Fierce. Je rappelle que la pêche à la morue sur les bancs était donc, on l'a dit, une pêche d'hiver.
C'est ça.
L'été, on pêchait plutôt la sardine, le maquereau et d'autres poissons de saison chaude et à proximité de la côte.
C'était différent.
Cette pêche se faisait à partir de petites barques, donc des doris à fond plat et pointu, pointu des deux bouts, montées par deux pêcheurs et posaient et relevaient des lignes. Et lorsque le doris était plein à ras-bord, ils reprenaient le chemin du retour vers leur goélette pour y débarquer les morues, les préparer pour la salaison, etc., etc. Et c'était un vrai boulot d'esclave.
Ah, on entend bien le doris qui avance avec des vagues. Ouais. Oh là, oui. Alors, ça y est, il a fait son petit chemin. Alors, ce 25 février 1883, donc février, on est dans le hémisphère nord, c'est plein hiver. Howard fait équipe avec Tom Welch, un homme déjà vieillissant, car ce métier, ça use vite. Bien que solide, on ne pouvait pas faire autrement, les gringalets n'avaient pas leur place sur ces goélettes. On le comprendra. Une vie extrêmement dure. Ils avaient quitté le bord sur le Doris à peine à la lueur de l'aube. Il demande à son compagnon, quel temps on va avoir, vieux Tom? Et l'autre, donc Tom Welch, lui dit, ton nez pourrait bien bleuir. Tu vois d'ici le truc.
Ouais.
Les marins d'alors avaient une perception du temps, de la météo, comme on dit maintenant, tout à fait particulière, évidemment. Pourtant, il faisait beau, mais dans l'est, quelques bandes de nuages paraissaient un peu chargées. La mer était plate, elle respirait amplement, hein, si les gens qui sont allés sur la mer, ils connaissent ça, la houle du large. Hein. Et puis, sur les bancs, il n'y a pas beaucoup de fond, c'est pour ça qu'on appelle les bancs, ce sont des hauts fonds. Hein. Howard naviguait depuis ses 15 ans, donc ça faisait à peu près 9 ans qu'il naviguait, 24 ans, ça faisait 9 ans qu'il naviguait. Il avait déjà doublé le Cap Horn plusieurs fois sur des trois mâts anglais et américains. Et lui, il répond, et le tien pourrait bien être bourré plus que jamais par la neige. Et tout ça, c'était plein de sous-entendus. Les Yankees appellent les gens de Nouvelle-Écosse les nez bleus. Et les autres disent que les Yankees ont le nez bouché, puisqu'ils parlent du nez. C'est ce que je fais en ce moment, puisque je suis enrhumé.
Ouais.
Oui.
Donc,
mais je ne suis pas Yankee, moi. Hein. Non.
Pour en revenir au Doris et au flétan, monter les flétans par la ligne, ce n'était pas possible. Il fallait les crocheter avec un gros crochet à mancher qu'on appelait le bastrock. Et à deux, on le mettait sur le Doris.
Ah, mais c'était des gros poissons. Hein.
Ouais. Et puis, ils étaient en train de faire ça quand la brise s'est levée. Le Doris commençait à se dandiner dans une petite houle. Alors Tom se met aux avirons pour le maintenir contre le vent et Howard monte les flétans à bord tout seul. On dit qu'il était très costaud, donc vous pouvez le faire tout seul.
Il avait des bons bras.
Bon, ils sont évidemment, comme on vient de dire, très lourds, mais lui était très solide aussi. Mais à ce moment-là, le vent se met à forcir et Tom a du mal à éviter que le Doris recule.
D'accord.
Bon, de toute façon, le vent porte vers la goélette, donc il ne se fait pas trop de soucis.
Ça va.
Howard doit en même temps garder son équilibre pour ne pas passer par-dessus bord, parce que monter les flétans à bord alors que le Doris est déjà à moitié plein, en même temps, il doit repérer les flotteurs des lignes à relever qui sont maintenant masqués par la crête des vagues.
Ouais, pas facile, pas facile.
Et donc, il faut faire un peu de gymnastique à bord.
Et puis, en plus, ils sont costauds, alors ils font du poids.
Voilà, exact. Donc, les deux hommes pensent qu'une fois le poisson mis à bord de la Grâce, un gros travail lui aussi quand même déjà.
Et oui, il faut les
rendre
d'abord.
Ils vont déjà se faire un bon thé dans la chaleur du carré, un bon petit repas, et regagner la paille de leur couchette.
Mais donc le vent vient net de s'arrêter. Et les marins de ces parages savent ce que ça veut dire. Parce qu'ils connaissent bien ces parages. D'un seul coup, les vagues semblent désorientées. Elles partent dans tous les sens. Tom a déjà armé la seconde paire d'avirons et Howard les a saisis de suite. Trop tard. Le vent les prend de plein fouet, donc un coup de vent, un vent de fou qui arrive cette fois du norrois. C'est-à-dire, le norrois, c'est le nord-ouest. Donc, il les éloigne cette fois de la goélette. Et cette fois, ils souquent à fond sur leurs avirons et ils font du surplace. Et pas moyen de gagner contre le vent tellement il est fort et tellement la barque est chargée. Et aussi contre les lames qui les rejettent en arrière et qui stoppent net une illusion de vitesse. Et alors à ce moment-là, ils tirent tellement fort qu'un des avirons se casse net, tant l'effort est violent. Et aussitôt remplacé, il est aussitôt remplacé évidemment par celui de secours, parce que quand même ils avaient du matériel de secours.
Ouais, ils avaient un aviron de secours comme nous, on a une roue de secours sur la voiture.
Un peu pareil, ouais. On dirait que la goélette approche, mais soudain le ciel devient plus sombre et il se met à papillonner. Et ça, c'est la neige, ces petits éclats de neige. Et un gros flocon. Non, le flacon, c'était pas ça. Et bientôt, elle recouvre tout cette neige tellement elle est épaisse. Et de suite, la visibilité se réduit. Il ne voit plus la goélette. Il ne la voit plus.
Ouais. Alors, on va dire que nous, gens de la Terre, on aurait été perdus, affolés, terrifiés, mais pas ces marins des bancs de Terre-Neuve.
Ouais.
Ils avaient ce qu'ils nommaient le compas du Doris, hein, une grande boussole plate qui leur permet de repérer dans quelle direction ils doivent aller pour retrouver la goélette. Car là, maintenant, on n'y voit pas seulement à 4 mètres avec tous ces flocons.
Ça fait peu.
Mais même si maintenant, ils pouvaient à peu près savoir dans quelle direction aller, et s'ils perdaient un peu de temps bousculés par les énormes vagues, bientôt, ils ne le sauraient plus. Alors, avec le bruit infernal du vent, c'était même pas la peine de hurler. Et même la corne de brume qu'on actionne sur la goélette, si tu es trop loin ou contre le vent, c'est impossible de l'entendre.
Et oui, on s'imagine pas ce que c'est, mais en mer, il y a du bruit quand même quand il y a la tempête. Et puis, sous ces latitudes, la nuit, elle vient très tôt. Et avec le ciel bouché, évidemment, c'est encore plus tôt. En effet, c'est déjà très sombre et en quelques instants, eh bien, c'est la nuit. Une seule chose à faire, il faut mouiller, c'est-à-dire mettre une ancre. Sur les Doris, il n'y a pas d'ancre, mais ce qu'on nomme un grappin, une sorte d'ancre à plusieurs crocs. En principe, 4 crocs, des fois 3, mais des fois 4. C'est l'idéal parce que ça s'accroche à tout ce qui passe sur le fond. C'est plus léger qu'une ancre et en plus, on peut le décrocher très vite aussi. Une main sur le câbleau, c'est-à-dire sur le cordage qui retient le grappin, s'il se raidit et s'il ne vibre plus, c'est qu'il a croché, c'est que la barque est arrêtée. Le Doris est immobilisé. Les deux hommes peuvent se reposer, se détendre un peu. Deux gaillards comme ça, ils n'avaient plus rien dans l'estomac depuis le casse-croûte du matin et ça se faisait sentir, évidemment, tu le comprends. Ils comptaient être entrés pour la soupe de 4 heures, tu parles. Et oui, des vivres et un tonnelé d'eau, ça prend de la place. Et sur le Doris, la place, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Alors à quoi bon, puisqu'on ne s'éloigne jamais trop de la goélette. Environ 2 km quand même, hein, en principe. Mais la mer, ça bouge, il y a le vent, il y a le courant. Et puis ces pêcheurs sont tellement habitués au danger que finalement, ils prennent des risques. Finalement, un ou deux jours sans manger, on n'en meurt pas. Et puis la neige, évidemment, c'est de l'eau douce.
Ouais. Donc les deux gars battent des bras pour se réchauffer et ils plaisantent, bof. Lorsque cette foutue neige va cesser, on va voir les feux de la grâce et même juste un peu au vent. Et le capitaine va nous recevoir avec une bolée de punch flambant et des crêpes même.
Ouh là, oui.
Et oui. Et en effet, la faillie neige a cessé, une étoile se pointe et voilà les feux de la grâce. Mais bien loin devant, au vent et en plus au vent.
Et au vent.
Il dérape le grappin et les voilà attirés sur ses avirons, ce qu'ils appellent le bois mort.
Ouais.
Et comme s'ils n'avaient pas déjà dans les bras des milliers de coups de pelle,
ouais.
Mais rien à faire. Le vent, par contre, n'a pas cessé et les vagues toujours aussi violentes. À nouveau, ben, il va falloir mouiller le grappin, sinon ils reculent.
Ouais.
Ils n'arrivent pas à avancer. Quoi. Mais il n'y a pas trop de fond cette fois. Le grappin ne croche pas. Alors, balancer tout le poisson à la mer, alléger le Doris pour pouvoir se remettre aux avirons. et aussi vider l'eau qui embarque le Doris, casser la glace car il fait si froid que l'eau gèle, le vent forcit et voilà encore la neige qui revient. Ils ne sont pas très bien partis.
Non. Et c'est comme ça toute la nuit. Et les nuits très longues en hiver dans le nord de l'Atlantique. On le sait ça. Lorsque le jour vient, le ciel est dégagé, mais cette fois, personne n'en vue. Le grappin drague sur le fond et il vaut mieux le relever car il risque de crocher brutalement et de faire chavirer la petite embarcation qui s'arrête d'un coup sec avec le poids des bons hommes qui sont costauds. Il décide de faire route, non pas contre le vent, de nord-ouest, mais de biaiser vers l'ouest pour tenter de rencontrer des bateaux qui sont plus fréquents de ce côté de Terre-Neuve. Ça, ils le savent. Mais cette route est impossible à tenir. Les vagues sont trop brutales et ils risquent le chavirage à chaque lame qui frappe le Doris et qui le soulève, évidemment. Il faut rester bout au vent. Bout au vent, c'est-à-dire droit, le nez dans le vent. Et pour ça, il existe un engin appelé une ancre flottante. Alors évidemment, ils n'avaient pas ça sur le Doris. Mais les marins sont des gens de ressources. Howard se met à fabriquer un engin de même type avec deux grandes planches arrachées au plancher du Doris, lestées de gros plombs, des lignes à flétan, puisque les lignes étaient évidemment lestées. Alors qu'est-ce que je disais ?
Lestées de gros plombs en ligne à flétan.
Et maintenues en position entre deux eaux, c'est-à-dire à moitié flottante, par un flotteur de ligne, parce que là aussi, puisqu'ils avaient embarqué les lignes. Cette espèce de croix, puisque c'est des trucs en croix, est amarrée de chaque bout à des lignes à flétan, amarrées sur le Doris, et passées à la mer, ça constitue une sorte de frein, si tu veux un peu, qui retient le Doris. Mais il continue à reculer, mais moins.
Voilà, et donc, pour réaliser sa trouvaille, Howard a retiré ses moufles, posées sur le banc de linge, mais une lame les a jetées dans l'eau au fond, et lorsque Tom a écopé à grands coups d'eau, les moufles ont été embarquées dans l'eau et les voilà qui flottent, bientôt recouvertes par une grosse vague et qui coulent. Howard n'a pas pleuré et n'a pas appelé sa maman, il ne faut pas croire.
Non.
Il ne pense même plus. Et il aime Tom à vider le Doris, à casser la glace à grands coups de poing.
Ouais, c'est des brutes.
Quand le Doris est bien allégé, ils prennent un peu de repos assis sur le banc de linge. Tom, une vieille chic pas mal mâchée, il la trouve et la coupe en deux pour la partager avec Howard. Ouais. Ben, comme ça, on va dire qu'ils sont heureux.
Ça les contente.
Ils se contentent de peu. Ouais. Soudain, Tom s'écrie « Howard, regarde tes mains, elles sont devenues toutes blanches. » Machinalement, Howard les frotte l'une contre l'autre pour les réchauffer, mais il ne sent rien. C'est comme s'il avait frotté deux morceaux de cuir. Ses doigts sont gelés. Howard réfléchit à toute vitesse. S'il attendait trop, il ne pourrait plus saisir les avirons. Et Tom serait seul à la tâche. Donc il prit un aviron, il a entouré ses doigts au-dessus, pareil pour l'autre, et il est resté comme ça 20 bonnes minutes. Et ça, petit à petit, ça a fermé deux blocs de pierre. Comme ça, lui aussi, il pourrait souquer. Wow. Il avait les doigts gelés, donc pris autour de l'aviron. Ça faisait comme deux manchons dans lesquels il pouvait enfiler donc, les poignets de l'aviron.
Vous êtes sur Radio Albigès avec
Jean-Marie
et l'inévitable Michel. Et avec Paul derrière la vitre qui nous assure la technique. On vous raconte l'histoire de Howard Blackburn. Un pêcheur canadien des années 1800.
D'une sacrée trempe.
Et donc, dans l'émission Dessine-moi un bateau. Et c'est sûr.
954.
Non, 95-4, on va dire.
Pardon.
Tu es monté un peu trop haut, là. On va redescendre.
Pourquoi 954 ?
Tu planes. Hein.
Ah oui.
Et 104-2.
En plus, je le sais.
Et oui, c'est ça. Alors 95-4 et 104-2, on rembambine la bande, et donc ça fait rire tout le monde, évidemment. Il n'y a que le micro qui rigole pas. Et donc voilà, alors Howard Blackburn. Et on le fait en deux épisodes. Hein. Là, vous avez le premier, et le deuxième, il est peut-être plus étonnant que le premier. Mais vous allez voir que le premier est déjà étonnant. Alors je reprends. Et puis le temps ne s'est pas arrangé. Les vagues, toujours aussi rageuses et brutales, abruptes, le vent en rafale violente, les paquets de mer qui embarquent sur le minuscule Doris, puisqu'un Doris ça fait 4 mètres, 4 mètres 50, hein, c'est pas grand. Et puis les morceaux de glace, c'est tranchant, et bientôt Howard s'aperçoit que des lambeaux de peau se détachent de ses mains. Il se dit que certainement ses doigts étaient fichus. Et si possible, il fallait tenter de protéger au moins le reste des mains, parce qu'il avait les doigts gelés, mais peut-être pas toute la main. Mais rien d'autre sur le Doris que leurs propres vêtements. Et pas possible de les utiliser sans mourir de froid, bien sûr. Hein. On ne va pas se mettre à poil, on ne se met pas en maillot, c'est sous l'altitude, même pas l'été. Hein. Et puis, il pense aux chaussettes de laine dans ses bottes de mer. Il arrache sa botte gauche et puis sa chaussette et il l'entoure sur sa main droite, celle avec laquelle il cogne sur la glace pour décharger le Doris. Et là aussi, problème, la chaussette mal enroulée glisse et tombe à la mer. Ça ne devait pas être bien pratique. Dans le canot, secoué de tous côtés, évidemment, vous l'avez compris. Et puis maintenant, ils sont son pied qui commence à geler. Il regarde Tom qui a les yeux agrandis par l'angoisse, par l'épuisement et par le froid.
Un jour et demi qu'il ne dormait pas, épuisé par la lutte pour la survie, sans rien manger, juste sucer de la glace. La nuit arrive et Tom part d'un grand rire violent, désespéré. « Eh, Boniche, apporte-moi une grande pinte de bière !» Il commençait à délirer, vaincu par cet enfer. Il laisse le seau et va s'allonger, s'abriter au fond du Doris, à l'abri des lames qui jettent le petit Doris dans tous les sens. Mmh. Howard saisit le seau et se jette, lui, dans une lutte sans merci. Il vide, il casse la glace, il reprend à peine son souffle et il repart dans sa bagarre contre ses éléments déchaînés. Des lambeaux tombent de ses mains de statue. Howard, ne me laisse pas seul, viens près de moi, ne me quitte pas. Tom, le vieux marin, le solide qui a affronté tant de campagnes de pêche dans le grand froid, est à bout de force. Howard va se serrer contre lui, il essaie de le réchauffer, il lui donne des morceaux de glace à sucer, comme façon de se réchauffer, il y a mieux, mais bon.
Pourtant, les marins, ça suce pas de la glace habituellement, ouais. Enfin bon, passons.
Et puis, il se remet à vider, à casser et à lutter contre l'eau qui envahit la petite embarcation.
Une lutte désespérée. Dans la nuit noire qui est revenue, Tom a cessé de se plaindre, le vieux Tom a cessé de se plaindre. Une nuit d'enfer à devenir fou ou à se laisser mourir pour en finir. Au matin, Ward est hagard, mais décidé à lutter jusqu'au bout. Il trouve son camarade semblable à ses propres mains, comme une statue de pierre et recouvert d'embruns gelés et comme vitrifié sur le corps gelé. Il s'agenouille près de lui et se met à prier Dieu pour lui. « Sans doute, je ne vais pas tarder à aller te retrouver, vieux Tom », il dit. Howard retourne à son travail de titan, à sa lutte démente pour survivre toute la journée, toute la nuit. Il écope, il casse la glace qui s'entasse dans le Doris. Il ne pense plus, il est comme une machine. C'est la survie, quoi. Hein. Et aussi, il attend la vague fatale qui va retourner le Doris et en finir.
Et puis, encore une fois, le jour arrive. 3 jours qu'il n'a pas dormi et qu'il n'a pas mangé. Le vent, peu à peu, se calme. Et puis, la mer suit le même chemin, puisque c'est le vent, comme tout le monde le sait, qui lève les vagues. Ouais. Howard regarde tout autour. De l'eau et encore de l'eau, et rien que de l'eau, et rien autour du Doris.
Pas de bateau, rien.
Howard fait une prière, leste le corps de Tom avec des plombs de ligne de pêche et lui donne le tombeau des marins, l'océan. Il reste longtemps à genoux, à concentrer son esprit sur le vieux Tom.
C'est un peu calmé, là, les vagues. C'est un peu ça, c'est... Alors l'instinct du marin reprend le dessus. Et puis aussi la volonté de ne pas céder, la volonté du battant. Pendant le coup de vent, celui-ci a tourné et en fait, il devrait à peu près se retrouver pratiquement pas tellement loin de son point de départ, d'après ce qu'il pense. Il sonde avec le grappin et bingo, il trouve le fond. Donc il est revenu sur le banc. Donc il est à nouveau sur les bancs de Terre-Neuve qui sont évidemment des hauts fonds, comme on l'a dit. Hein. Donc la terre, la côte est forcément, puisque c'est des gens qui connaissent la région, dans le nord-ouest. Oui, il faut être marin pour comprendre ça, bien sûr. Hein. Il enfile ses doigts gelés qui sont dans les manchons des avirons, et ça glisse, ça ne tient pas. Les doigts sont paralysés, gelés, ce sont des blocs de glace. Il finit par trouver le bon geste et la bonne position, à force d'essayer, et en même temps, des lambeaux grands comme des pièces de monnaie s'arrachent de ses doigts qui sont complètement gelés.
Ouais, faut s'imaginer.
Il souffle, il ne s'arrête pas de la journée, il n'a rien à manger, il sait que sa vie est seulement dans sa volonté. Et il se met à chanter une vieille chanson, à nager. C'est bâbord qui gagne, c'est bâbord qui gagne au vent. Hein, c'est une chanson de marin qui souffle sur les avirons. ça l'aide. Non, non, c'est pas la chanson, ça.
Ça, c'est ça, le délire dans sa tête.
Oui, ça l'aide à garder, c'est vrai. Ça l'aide à garder sa raison, et, ou la raison tout simplement, qu'ils sont par un moment lui échappés.
Et c'est la quatrième journée d'une lutte sans merci. La nature, c'est pas humain. Ça ne connaît pas la pitié. C'est brutal, sans âme. Et on ne peut lui opposer qu'une volonté de faire, doublée de ruse, de savoir-faire, de réflexion. Il va ramer toute la journée. De temps en temps, il se retourne, fait un tour d'horizon, pas de bateau, pas de terre, et toujours cap au nord-ouest. Rien, l'océan vide. Il voit quand même des oiseaux, et en hiver, il le sait, les oiseaux ne s'écartent pas trop de la terre. Mais quand même, certains peuvent s'en éloigner de près de 100 km.
Quand même, ouais. Ça fait un bout.
Mais Howard sait qu'il ne peut pas être à 100 km de la côte, ça n'aurait aucune logique. Et le marin est surtout logique. Et puis, il faut garder l'esprit clair et ne pas paniquer et se battre. Howard sent la fatigue le gagner, mais il ne faiblit pas. Et en même temps, il lui faut s'économiser. Il faut tenir coûte que coûte. C'est lui qui doit gagner. Le soleil décline. Il a ramé toute la journée. Si la nuit vient, qu'est-ce qu'il va devenir ? S'endormir épuisé pour ne plus se réveiller ? Ou peut-être vérifier ? Et surtout vers l'ouest. Vers l'ouest, c'est ça. Il voit comme un gros rocher blanc qui sort de l'eau. Il sait au Howard que les roches des côtes de Terre-Neuve ne sont pas éloignées de la côte. Il se remet à ramer avec une vigueur nouvelle et le vent qui se remet à souffler pour le repousser loin de cette côte. Le Doris n'avance plus et la nuit vient opaque.
Une seule solution, puisqu'il est sur les bancs, mouiller le grappin et tenir comme ça, secoué par le dur clapot qui s'est levé, évidemment une fois de plus. Hein. Et puis essayer de se reposer, mais ne pas dormir, sinon il ne se réveillera plus, ça il le sait. Accroupi au fond du Doris, il entoure de ses bras le banc de nage et se balance d'avant en arrière toute la nuit, et somnolent, reprenant ses esprits, dès qu'il sent le sommeil venir, il lutte contre le sommeil tout en voulant se reposer. Trop crevé pour même avoir faim, il ne touche pas au seul flétan qu'il a gardé dans le Doris. Seul flétan qu'il a gardé, pour essayer de le manger si vraiment il ne pouvait pas faire autrement. Une autre nuit sans doute plus terrible, une lutte contre le sommeil tout en se reposant. Encore plus dur. Et puis à nouveau l'aube arrive, le vent mollit, le Doris n'a presque pas dérivé et le grand rocher blanc est bien prêt. Howard se remet aux avirons et ce rocher s'avère être un îlot inhabité et couvert de neige. Il faut continuer la route et ramer toute la matinée. Vers midi, la côte apparaît de grandes collines enneigées. Alors là, cap droit à l'ouest. Et il reprend la nage. Et il parvient dans une petite baie abritée dans laquelle se jette une petite rivière. Vers les 5 heures, il aperçoit une petite estacade, c'est-à-dire un petit appontement de bois. Et il se dit, les hommes du feu, fini l'enfer.
Il amarre donc le Doris, charge le flétan sur son bras et se dirige vers une petite cabane en retrait. Mais pas la moindre trace sur la neige. La cabane est porte et fenêtre béantes, il n'y a personne. À l'intérieur, de la neige a pénétré, rien pour faire du feu, pas même un foyer, juste une table et un baflan. Voilà. Il est brisé, désespéré, il n'a même pas faim. Il y a de la morue salée dans un baquet, il n'y touche même pas. Encore une nuit d'enfer, de lutte pour ne pas s'endormir définitivement, se lever du bas-flanc, marcher dans cette cabane, attendre demain le soleil, le jour. Attendre encore, lutter. L'aube arrive bien sûr, il reprend le flétan, redescend jusqu'au Doris, manque de chavirer en montant à bord.
Oui, parce qu'il est costaud, il est lourd. Hein.
Ouais. Reprend les avirons pour remonter la rivière, ramer encore. Le courant manque de le rejeter vers la mer, mais il remonte. Il est comme une machine infernale, il se balance pour tirer comme un damné sur ses avirons qui sont sa survie.
Alors il atteint une pointe de terre, il regarde, rien. De la neige, des arbustes rabougris, et la nuit qui revient, car les jours d'hiver sont, on l'a dit, très courts. Sous ces latitudes, c'est très court. La lune éclaire ce paysage qui devient un cauchemar. Il rame sous la lune, dans le paysage scintillant, avec des mains mortes de somnambules, et ça pendant des heures. Maman, un homme de neige arrive sur un Doris. C'est un petit garçon, dans la première lueur de l'aube, qui crie ça. Un volet qui claque, une femme se penche et regarde dans le petit jour. Une minuscule embarcation double très lentement la pointe qui est en aval de la rivière. Qui ça peut bien être, là, à cette heure, dans ce minuscule hameau de Little River? Personne n'est en mer à cette heure. Les gens, ils sont chez eux encore, les pêcheurs, parce que c'est des pêcheurs. C'est pas quelqu'un d'ici. Et puis le Doris, il zigzague d'un bord à l'autre de la rivière. C'est pas possible, ce bonhomme doit être ivre. Il n'emprunte pas le contre-courant que tout le monde connaît ici. Et puis l'homme s'arrête de ramer. Le Doris se met en travers, sa tête du bonhomme dans le Doris tombe sur sa poitrine. L'aviron lui échappe, part à l'eau, et cet homme ne réagit pas.
Franck, regarde en aval, un homme sur un Doris, il est ivre ou bien... Franck, sur l'appontement, saute sur un canot et nage vigoureusement vers le Doris. Il nage, c'est une façon de parler, il est sur le bateau.
Il rame, c'est comme ça qu'on dit les marins, nage. Oui.
Non, mais je préfère le préciser.
Oui, t'as raison.
Sur l'autre rive, deux gaillards sont déjà, eux aussi, en train de ramer vers le Doris.
Ouais.
Howard est à bout de force, tombé à la renverse. Howard, puisqu'il s'agit de lui.
Et oui, Blackburn.
Il est sur le dos. Les deux canots accostent ensemble le Doris. Il est recouvert de neige. Le Howard, et c'est pas facile, alors ils prennent le Doris en remorque et nagent vers l'appontement. On transporte Howard vers la première maison. Frank hurle « Martha, fais chauffer de l'eau, apporte l'alcool !» Il allonge dans la misérable demeure de Frank et Martha, Lichman.
Mmh.
Frank ouvre au couteau le ciré pour frictionner Howard. « Il est presque gelé, commente un vieux pêcheur qui est accouru en entendant tout ce chahut. »
Alors, évidemment, on vous passe le détail de... Les mains violettes, plus que violettes d'ailleurs, noires, les doigts devenus décharnés, tout gris. Mais Howard a encore des choses à faire. Et pas rien pendant les 49 ans qu'il a encore devant lui. On va voir ça à la prochaine émission, car Howard Blackburn fut un homme largement hors du commun. Au revoir à tous, à bientôt.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau pour les vacances, nous avions un bateau.